Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la moto de 11h à 12h30 sur le 106,6 de Radio Campus Lille ou sur internet www.campuslille.com. Le tout-terrain à l'affiche aujourd'hui de cette émission du dimanche 11 février avec notre ami et spécialiste Guy Pilarczyk. Guy, bonjour.
Bonjour la miche. Donc aujourd'hui, tu vas l'annoncer, on a quand même des invités de classe, hein, dont on aura Milko Potisek. Il y a 15 jours, il n'était pas encore sur la ligne de départ, mais presque. Ensuite, on aura Adrien Van Beveren, pardon, qui a fait une chute assez spectaculaire sur le Dakar. Donc on demandera un peu comment ses blessures se guérissent, parce que bon, il était à l'enduro
le dimanche.
Nous allons faire un tour. Alors on était au Touquet, on était au Dakar, maintenant on part en Russie avec le championnat du monde de course sur glace qui a commencé la semaine dernière. Et aujourd'hui il y a les courses championnat par équipe. Et enfin on aura le Caïman avec Alain Tefli qui organise un bus pour aller visiter le musée de Sammy Miller, enfin un musée de 300-400 autos exposées.
Que des machines de course, de compétition,
en fait.
Le musée Sammy Miller, c'est ça?
C'est ça.
Et de cross, tout terrain, ou de vitesse aussi?
Enfin, plus de vitesse et de cross, quelques-unes, quoi. Hein, mais c'est un musée à voir, hein, au moins une fois dans sa vie. Hein.
Très bien. Voilà, nous sommes en compagnie aussi de notre ami Yanis. Yanis, bonjour.
Bonjour.
Yanis qui se prépare pour aller tenter encore une nouvelle fois d'aller vivre un week-end dans la neige le week-end prochain, parce que le week-end prochain
Zaltos Elephanten Treffen, voilà, au Nürburgring.
Donc on a décidé d'aller faire un petit reportage là-bas, de partir là-bas. Donc vendredi on part. D'ailleurs on vous invite si vous avez jamais participé, une folle aventure.
Hein. C'est une expérience. Bon, incontournable pour tout moteur qui se respecte.
Une petite aventure, alors. Voilà. Et donc, on partira vendredi et puis on verra un peu comment. Ça fait quelques années qu'on ne sont pas allés là-bas.
2011.
Et puis, donc, voir un peu l'ambiance, si ça a changé, s'il y a du monde, il y a beaucoup de participation, de participants aussi. Voilà. On verra ça.
On verra s'il y a de la neige.
Et de la neige aussi, surtout, parce que l'hiver, c'est ce qui est important, c'est la neige. Hein, en fait, voilà. Et puis, nous sommes en compagnie de notre motarde. Alors, il faut la. Mais si, bonjour, bonjour Christine.
Bonjour.
Notre motarde mayonnaise qui était le week-end dernier, samedi dernier, une grande manif, une participation très importante là-bas, à Laval.
Oui,
des motards. Il y avait plus de 5 à 6 000 motards qui se trouvaient là-bas. Si, Christine, tu fais. Non. Non, il y avait une inter-manif. Il y avait les
motards et les automobilistes.
Il y avait aussi beaucoup d'automobilistes, effectivement. Et c'était la Sarthe, hein, la FMC, la Fédération française des motards de la Sarthe, de la Mayenne. Et de
Lille-et-Vilaine qui se sont réunis.
Et c'est ce qui a fait un petit peu le succès de cette manif.
Exactement. Qui a
bloqué pratiquement toute la ville de Laval.
Il y a deux grands ronds-points.
Il faut savoir que là-bas, il y a deux grands ronds-points pour entrer dans cette ville. Et effectivement, ça a été pendant quelques heures bloquées, et pour montrer le pourquoi aussi, hein, Christine, hein, ces fameux 80 km/h. Hein,
les 80 km/h et tout, plein de choses aussi.
Et plein de choses aussi.
Les routes, les
barrières de sécurité, les contreplaques aussi, des barrières de sécurité. Hein, voilà.
Voilà, une belle manif. En fait.
Voilà. Et on a reçu aussi une carte auditeur qui nous dit, ben voilà, c'est super ce que vous faites là à la radio, et que vous parlez de moto et de bécane et de motard aussi. Voilà.
Oui, voilà, il spécifie que vraiment, bon, lui qu'il est petit motard, mais c'est un grand passionné, qu'il écoute l'émission tous les dimanches matins, qu'il est venu à Seclin pour justement le calendar. Et en fait, il trouve que la miche est impressionnant, que le calendrier, c'est un super travail, qu'il souhaite une longue vie à l'émission. Il dit qu'on a beaucoup assuré à Seclin justement lors de ce calendar. Et il nous demande même si on ne fait pas les mariages.
On pourrait faire les mariages. Qu'est-ce que t'en penses, Laurent? Bonjour Laurent, notre technicien.
Je ferai le DJ et je prendrai un maximum de tubes.
Et moi, je peux même transporter la mariée dans mon sidecar.
Eh oui, sidecar,
voilà.
Effectivement.
Ouais, j'ai déjà fait.
Donc, c'est Moon qui nous a envoyé cette petite carte.
Bah écoute, enchanté. Oui, merci pour.
N'oublie pas que Balou aussi, qui aime se déguiser.
Mais on a presque tout pour faire un mariage. On a le sidecar et on a Balou qui.
L'évêque même.
Exactement, oui.
Il manque plus que le marié et la mariée.
Et voilà, il faut trouver les musiques.
Bah, à mon avis, la question n'était pas innocente. Il va se marier, Moon.
Peut-être.
C'est ça.
Tu peux nous appeler éventuellement pour nous dire.
En filigrane.
Ouais. Bah déjà, on va lui dédicacer le premier morceau.
Allez, c'est pour toi, Moon. Yannis arrête de battre la mesure, de jouer de la guitare avec imaginaire. Est-ce que nous avons au téléphone Miko Petitsec?
En effet, Miko, il y a 15 jours exactement, hein, il était pas encore sur la ligne de départ, mais toi, la Miche, tu as assisté à l'arrivée.
Alors, j'ai assisté effectivement à l'arrivée. Allô ? Il y a un petit problème technique. Allô, Miko ?
Ouais,
bonjour. Bonjour, voilà.
Le réseau Castellois n'est pas fantastique.
Ah, c'est le réseau, bah d'accord. Bon, bon, bah,
pourtant, t'es sur une butte, non, Miko ? Non ?
Ouais, non, mais j'habite tout en haut du mont et c'est vrai que c'est un peu toujours compliqué avec le téléphone. Mais, ouais, bon.
Il ne faut pas bouger, là Miko c'est bon, hein, c'est impeccable. Notre technicien nous fait signe qu'il ne faut absolument pas bouger, c'est
ouais,
là,
je
très
ne
bien.
Bouge pas.
Voilà.
Alors Miko, d'abord, félicitations hein, pour ce... Ah, t'as un chien.
Ouais.
Félicitations hein, pour
ta
grande victoire. Enfin, c'est une grande victoire parce que tu as connu pas mal de déboires au Touquet. Et là, là c'était vraiment la course... qu'il fallait quoi. Tu à l'arrivée, bon, on t'a pas vu, t'étais pas très, enfin déjà pas fatigué et pas très expressif de cette victoire. C'était plus intérieur.
Ouais, non mais déjà c'est vrai que j'étais vraiment prêt pour faire les 3 heures de course et du coup forcément premièrement j'étais prêt, puis j'ai gagné donc. Forcément, la fatigue, on la ressent beaucoup.
D'accord.
Et je pense, par exemple, à un gars comme Watson, qui finit deuxième, c'est quelqu'un qui est très fort aussi physiquement, mais bon, il sait qu'il vient de faire deuxième, donc, enfin, voilà, il prend un peu un coup de massue en plus, on va dire. Mais non, mais c'est top d'avoir décroché cette victoire. Et après, expressif, c'est vrai que je le suis pas vraiment en temps général, j'ai plus tendance à garder
en toi.
Ouais, voilà, en moi, mais bon, je pense avoir quand même montré que j'étais heureux d'avoir gagné.
Oui, parce que le fait que tu avais déjà jeté la moto, là...
Bah ouais, non, mais ça, c'est... Ça, en fait, un peu pour l'anecdote, c'est que j'étais persuadé qu'il me restait encore un tour.
Oui.
Donc j'ai... À la limite,
alors...
j'aurais passé la ligne d'arrivée et que j'aurais fait le dernier tour. Pendant 14 minutes, je me serais dit, bon, bah ça y est, je vais peut-être pouvoir gagner mon premier touquet. Qu'est-ce que je vais faire? Que vais-je dire? Mais là, ça n'a pas été le cas. J'ai été pris un peu de court. Et c'est pour ça, quand j'ai passé la ligne, je me suis dit, ouais, c'est trop beau. Et c'est maintenant, du coup, enfin voilà, c'était plus un geste de soulagement.
Tu étais pas noté, tu savais qu'il fallait, par rapport au temps, hein, il fallait essayer de ralentir un peu pour pouvoir éviter de faire ce tour supplémentaire.
Ouais, mais non, justement, j'ai...
Tu savais ça ? Parce qu'il y avait Watson qui était juste derrière, là.
Ben voilà, quand je suis rentré au stand, la seule info que j'ai eue, parce qu'en fait, on a fait un dernier ravitaillement clair, et la seule info que j'ai eue, c'est Jean-Claude Mousset qui me dit, Miko, t'as 40 secondes d'avance, c'est maintenant, lâche pas, elle est pour toi. Et du coup, je me suis dit, j'ai plus que 40 secondes, donc c'est pour ça que j'ai vraiment voulu rehausser un peu le rythme. Et j'ai vu que j'étais frais, j'avais vraiment de quoi en remettre, donc c'est pour ça que je suis reparti. Et là, quand je vois la vidéo, c'est de peu, et enfin voilà, c'est voilà. Top.
Donc ce fameux ravitaillement, là, c'était au cas où, si tu devais faire un tour supplémentaire, si tu passais la...
Ouais.
Voilà.
Ouais, voilà, c'est... Moi, pareil, à la base, on devait vraiment pas mettre d'essence, et c'est pour ça, quand je suis rentré et qu'ils m'ont arrêté, je me suis dit, j'ai trouvé ça un peu bizarre, et en fait, c'était si je passais sur la ligne à 2h58, 2h59,
voilà.
Et qu'on repartait pour 14 minutes,
oui.
C'était vraiment calculé pour que je finisse avec le réservoir vide. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas pris de risque. Et si perdre le touquet sur une panne est un peu con. Et surtout que le fait d'avoir mis de l'essence, on a perdu 30 secondes. C'est aussi grâce à ça que j'ai pas fait le tour supplémentaire. Donc
voilà, c'est ça, oui.
Au final, ça a été super bien calculé par l'équipe de Yamaha France.
Tu connaissais le temps entre toi et Watson qui était juste derrière, hein?
Quand je me suis arrêté, ils m'ont dit que j'étais à 40 secondes. Après, c'était un peu toute la course, on a roulé en décalé, lui et moi, parce qu'il ravitaillait beaucoup plus tôt. Donc c'est pour ça que les infos n'ont jamais été... À la limite, il y avait un tour ou deux dans la course où là, j'avais vraiment la vraie info du temps qui nous séparait. Mais sinon, je savais que ça allait être dans les deux derniers tours où j'allais avoir la vraie info.
D'accord. Justement, pour cette victoire, vendredi, j'ai vu ton oncle Rudy, on a discuté un peu de l'enduro, bien sûr, et de toi. Et une victoire à l'enduro du Touquet, ça vaut un titre de champion de France de motocross, non ?
Bah non, je dirais que ça vaut même plus qu'un titre de champion de France. J'ai déjà fait j'ai fini deux fois vice-champion de France. Contre le Touquet, c'est vraiment un autre monde. Et j'en avais déjà entendu parler forcément et je me doutais un peu de l'ampleur de cette course. Mais là, c'est vrai que c'est quand même incroyable. Tous les gens qui félicitaient, les retombées, les interviews et tout, c'est un truc de fou.
Un truc de fou, oui, en effet, oui. Est-ce que ce titre, cette victoire te ramène quand même des sponsors supplémentaires, par exemple, pour la saison 2018 ou pas?
Ouais, vraiment que ça va m'apporter de nouveaux partenaires. Après, j'ai pas spécialement changé grand-chose. J'ai toujours eu cette idée de rester fidèle à mes partenaires. Ça fait pour la plupart plus de 10 ans que je roulais avec les mêmes tenues, les mêmes casques, etc. Donc je prévois en aucun cas de changer. Et après, si ça peut m'apporter des partenaires extra sportifs, parce que c'est forcément de ça qu'on a le plus besoin, mais ça serait génial. Ouais.
D'accord. Parce que cette année, tu repars en campagne du MX1. Est-ce que tu fais toute la campagne? Parce qu'il y a quand même 20 épreuves. 20 épreuves. Et toujours. Est-ce que tu l'as fait entièrement, par exemple?
Non, je vais faire tout ce qui se trouve en Europe. Et il y en a 4 Overseas. Donc c'est Argentine, 2 en Indonésie et une au Mexique. Celle-là, je vais pas les faire. Je roule pour un team italien.
Oui, team italien, oui. Ouais.
Et eux seraient assez partants pour les faire, mais bon, j'ai déjà quand même roulé tout l'hiver. Ils veulent que je participe au championnat d'Italie, donc c'est 7 épreuves en plus. Donc j'aurais dit vraiment que je préférais me concentrer sur les 16 en Europe. D'accord. Et surtout garder parce que ça coûte beaucoup d'argent forcément aux teams, donc je préfère qu'ils gardent cet argent et qu'on soit bien pour les 16 en Europe. Et bien les faire, et aussi le championnat d'Italie, que d'aller dépenser un budget, qui est vraiment énorme pour aller faire 4 courses au fin fond du monde. Donc je préfère rester là-dessus.
Et cette année-là, il y a 20 épreuves, je crois qu'il y en a 2 de plus. Est-ce que ça fait quand même beaucoup, non, d'après toi, quand même 20 épreuves?
Ouais, à la limite, si je participerais que au championnat du monde, 20 épreuves, c'est bien, parce qu'au moins ça nous permet de faire quasiment 2 ou 3 week-ends à la suite, et après on a un week-end de repos. Donc ça, c'est plutôt bien, mais le problème c'est que, par exemple, moi, pour pouvoir participer au championnat du monde, le team italien me demande de faire le championnat d'Italie pour décrocher le titre.
D'accord.
Et c'est ça qui leur paye justement leur saison de Grand Prix. Donc là, ça fait que moi, le week-end de repos, je pars faire un championnat d'italien et là, je pars pour 26 week-ends à la suite.
Ah ouais, d'accord.
Après, j'ai 2-3 week-ends de repos et après, je renchaîne jusque fin septembre. Donc moi, ça me fait vraiment un calendrier assez copieux. Mais bon, après, c'est mon boulot, donc je suis heureux de le faire.
D'accord. Et puis aussi, on a remarqué, tout le monde a remarqué, le petit coucou que tu as fait à Timothée pour ta victoire.
À vrai dire, j'avais pas spécialement prévu d'en parler, parce que ça a toujours été un sujet que je préfère vraiment garder pour moi.
D'accord.
Après, c'est quasiment la première question qu'on m'a posée, donc forcément, c'est une des pensées que c'est l'une des premières, et ça me fait plaisir de remettre mon petit sec en haut de l'affiche, et c'est génial, quoi. Et là, j'ai vu une petite photo qui circulait sur Internet de lui quand il gagne son dernier Touquet, moi mon premier. Je trouve ça carrément mignon. Ouais,
Miko, on a notre motard franco-grec, tu vois, alors qu'il fait pas du tout terrain, hein, il fait pas de motocross. C'est plutôt le bitume, les hivernales. Je sais pas si tu sais ce que c'est que les hivernales. T'as déjà participé à ce genre d'activité, de rencontre, non?
Non.
Non, tu connais pas. Bah voilà, écoute, c'est notre ami Yanis qui va te poser une question. Bah, il était présent, hein,
Bonjour Nico,
il t'a vu gagner.
Et bravo pour ta victoire, hein, c'est vraiment super. Moi, je voudrais savoir si tu as des. Est-ce que tu aimerais courir le Dakar comme le fait Adrien maintenant?
C'était quelque chose qui pourrait me plaire. Après, si je le fais, ce serait vraiment pour voir ce que c'est le Dakar. Après. Le faire comme le fait par exemple Adrien, je pense pas, ça serait vraiment plus pour découvrir l'épreuve, mais après moi je sais que j'ai un tempérament assez, pas impulsif, mais j'aime bien vraiment la vitesse et tout, et quand je vois les vitesses qu'ils prennent au Dakar, des fois je me dis, c'est chaud quand même, c'est vrai qu'il y a quand même ils prennent beaucoup de risques, donc j'aimerais bien le faire vraiment sans objectif, sans contrainte derrière et pour le faire pour le kiff, mais bon, après, c'est vrai que ça coûte quand même beaucoup d'argent et je pense que si j'arrive à décrocher le budget pour le faire, les partenaires, ils n'ont pas forcément envie de me voir faire la promenade. Ouais. Donc, on verra ça plus tard. Et le sujet numéro 1.
Et le Dakar, c'est beaucoup aussi de la navigation. Il faut pouvoir se repérer et parce qu'on se perd vite et on perd beaucoup de temps.
Bah ouais, c'est clair. Et puis, c'est surtout.
C'est pas que de la vitesse, je veux dire, là.
Il faut avoir quand même une base en mécanique, il y a beaucoup de choses à avoir, et après c'est sûr qu'il faut faire quelques épreuves avant pour vraiment découvrir ce que c'est, et oui, la navigation comme vous dites, que c'est vrai que c'est très très compliqué.
C'est un autre métier, quoi. Métier de pilote.
Voilà. C'est clair.
Et on a aussi une motarde, parce que tu sais maintenant, tu sais qu'il y a 30% de la population qui est motarde en fait, enfin la population motarde en général, hein, et donc on a une motarde dans les studios qui voudrait aussi te poser une question, Nico.
Oui, bah justement, bravo aussi, hein, Nico, pour et en fait, je voulais savoir, c'est quoi le plus pour avoir gagné cette course? C'est ta forme, c'est d'avoir au niveau conditions physiques, enfin, qu'est-ce qu'il y a eu en plus justement pour gagner cette course en fait?
Je dirais surtout l'entourage, qui je me suis vraiment bien entouré cet hiver, et vraiment des personnes proches.
Oui, ta famille a été présente, hein, beaucoup présente.
Voilà, donc ça je pense que ça m'a beaucoup aidé, et aussi je pense rassuré tout l'hiver. Et après, c'est vrai que j'ai passé un hiver sans blessure, c'est ce qui m'était arrivé depuis très longtemps, donc là j'ai vraiment pu m'entraîner pendant 6 mois non-stop. Tout s'est bien passé. Donc après, l'entraînement hivernal a fait beaucoup. Ouais. Okay.
Bon, finalement, on voit que tu étais vraiment préparé, tu étais vraiment aiguisé, hein, pour cette course. Hein. Manifestement, tu étais bien préparé quand même. Voilà.
Merci Milko. On pourrait parler au moins pendant une heure de toi et puis de tes exploits passés et futurs, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que tu as été vice-champion du monde en MX3, hein, beaucoup de gens l'oublient.
Ouais, mais c'est après ça fait quand même pas mal d'années maintenant. Là, il y a une belle saison qui m'attend, je suis en grande forme, donc pressé d'y être et de faire des exploits en mondial maintenant.
On te suivra à chaque Grand Prix, Milko.
Ouais, c'est gentil, merci beaucoup de m'avoir appelé.
Ok, allez, merci. Salut.
Au revoir.
Au revoir, merci. We'll be right back.
C'est le magazine de la moto tous les dimanches de 11h à 12h30 sur Campus Lille 106,6. Bon, il y a Guy qui me fait signe. Oui, Yanis, tu as quelque chose à nous informer, à nous dire.
Bah écoute, là sur le motocross, je suis complètement incompétent. Non, 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 mais on a dit tout à l'heure que la.
Moi, j'ai posé la question à Guy. Tu étais au Vintage le vendredi. Donc, est-ce que tu avais des belles machines? Alors, on revient toujours sur cette course là avec des motos qui sont avec des fourches qui sont plus d'époque, des suspensions arrière, c'est pareil. Et on se demande ce qu'il y a dans le moteur aussi.
Et dans le moteur aussi. Parce que depuis, ça fait la quatrième année. Si c'est la première année, tu sais, il y avait quand même des motos d'époque. Il y avait des Bultaco, il y avait des Montessa, il y avait des KTM d'époque. Et cette année, bon, ben, hormis, j'ai vu une Portal, c'est une moto française. Il y avait quand même des KTM. Il y avait une Maiko que j'ai pas vue.
Sur 300, 400 machines engagées, tu vois.
Ouais. Parce que n'oublie pas qu'à la première épreuve, il y a eu 285 pilotes.
Oui, on continue. Ben, on a Adrien Van Beveren au téléphone. Voilà. Alors, voilà. Voilà. Allô, Adrien, bonjour.
Ouais, Adrien.
Bonjour. Salut, voilà.
Vous êtes Campus. Ouais, t'es sur Campus Lille. Voilà. Okay. Avec Guy Pinarzi, c'est le monsieur motocross tout terrain en fait. Voilà, de l'émission.
Okay. Donc, oui, je connais Guy.
Tu connais Guy. Bon, ouais. Qui ne connaît pas Guy? Oula, c'est bien.
Donc, d'abord, de tes nouvelles, de tes blessures, comment se portes-tu? Est-ce que tu es en bonne voie?
Ouais, ça va mieux. Écoutez, ça va beaucoup mieux. La période la plus dure est passée maintenant. Hein. Mon pneu motorax est complètement résorbé, donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Globalement, en fait, aujourd'hui, c'est ma clavicule et mes côtes cassées qui sont encore un petit peu douloureuses.
D'accord.
Mais c'est en train de se refaire tout doucement. J'ai vraiment de mieux en mieux. Et je suis content parce que il y a quand même eu une quinzaine de jours après mon crash qui était assez long, assez difficile et j'ai un petit peu souffert, mais là ça y est, je vais de l'avant.
Et t'as resté en Argentine un peu plus longtemps à cause de ça,
Ouais, je suis resté un peu plus longtemps. Ouais, en fait j'ai eu le pneumothorax, c'est pas quelque chose de très grave, mais c'est quand même à prendre bien au sérieux. J'avais un drain parce qu'il était assez important, donc j'avais un tuyau en fait qui rejoignait ma plèvre et mes poumons pour évacuer l'air et le sang qu'il y avait
dans tout ça. Donc c'était assez, assez gênant et ça contraint forcément de pouvoir prendre l'avion dans de bonnes conditions. C'est pour ça que je suis resté là-bas.
D'accord.
Maintenant, j'aurais pas de séquelles suite à cette blessure et c'est vraiment ça le plus important parce que dans un bon mois, maintenant, un mois et demi, je pourrais être de nouveau sur ma moto et c'est quand même une chance.
Et tu dis dans un mois tu vas être sur ta moto, mais en vue de d'autres épreuves de rallye ou de l'entraînement d'abord ?
D'abord d'entraînement forcément, mais j'ai déjà en vue de faire le Merzouga Rallye qui a lieu mi-avril.
D'accord.
C'est un petit peu tôt en termes de délai, mais en fait il n'y aura pas d'autres rallyes avant le mois d'août. Après je fais des deux ou trois rallyes de championnat du monde au mois d'août au Chili, Pérou. De nouveau pour aller préparer le prochain Dakar en fait. Hein, tous ces rallyes là n'ont qu'un but pour moi en fait, c'est pas forcément de gagner là-bas, mais c'est vraiment de préparer le Dakar au mieux, c'est-à-dire de s'entraîner, de faire un maximum de navigation. Le rallye raid c'est vraiment une discipline difficile et compliquée et c'est comme un peu tout, plus on travaille, plus on s'entraîne et plus on est performant.
Et au niveau de navigation ou bien roulage, tu es plus fort en quoi navigation, c'est assez compliqué ou pas? Parce qu'il faut toujours me regarder.
Là, en fait, pour gagner le Dakar, il faut être bon partout, pour être assez clair. Il faut être capable aussi bien d'ouvrir une spéciale, de partir devant et de ne pas se perdre, et d'avoir quand même un rythme de vitesse important. Alors, moi, j'essaie toujours de garder quand même de la marge dans mon pilotage. Malheureusement, cette fois-ci, j'ai pas pu échapper à la chute, mais quand même, globalement, je roule souvent moins à la limite que les autres pilotes. Maintenant, on est obligé de rouler vite. Hein. Ça va vraiment très vite. On se rend pas compte. Je pense que même les autres pilotes qui ont jamais fait de rallye raid et le Dakar ont un peu l'impression que c'est une aventure, un tour. Et même si c'est une aventure, je peux vous dire que quand on est dans la spéciale, c'est ni plus ni moins du motocross, on est à fond, on veut éviter de perdre, on essaie de gagner des secondes partout, et ça pendant 300, 400, 500 km tous les jours, c'est vraiment difficile.
Est-ce que tu savais, quand tu as chuté, est-ce que tu savais que tu avais 47 minutes ou 45 minutes d'avance sur le second?
Non, malheureusement, je ne savais pas.
Est-ce que tu es,
tout,
vous êtes informé, non? Vous n'avez pas de système d'émetteur?
Non, ou... c'est interdit.
D'accord.
Complètement. Non, parce que c'est le principe du rallye raid.
On peut se dire qu'à 3 km de l'arrivée avec 47, c'était la victoire du Dakar, c'était pratiquement gagné. Hein.
C'est jamais gagné la preuve. Mais,
non, c'est jamais gagné, mais bon.
C'était une grosse option, ouais. C'est vrai que c'était une grosse option. Mais moi, je ne le savais pas du tout. Je savais que j'étais en train de faire un bon coup parce que j'étais parti 7e ce jour-là et j'avais plus de traces devant moi. Au moment où je suis tombé, déjà depuis 100 km, les pilotes s'étaient perdus et je voyais que j'avais plus de traces, que je validais les waypoints. Donc je me suis dit, forcément, c'est qu'ils sont derrière, ils sont perdus. Et donc là, forcément, je savais déjà que j'étais en train de faire une bonne OP et prendre de sérieuses minutes en plus parce que j'étais déjà en tête du rallye avant cette étape-là. Et là, je me disais, bon, je suis en train de prendre du temps, mais pas au point de savoir qu'il s'était perdu aussi longtemps et que j'avais 47 ou 48 minutes même d'avance. Alors, pour
Les blessures physiques, ça a dû faire très mal, mais je pense que la blessure morale aussi, tu as dû être hyper déçu quand même.
Ouais, c'était dur. Après, vous savez, les premiers jours, j'étais quand même... En fait, juste après ma blessure, j'étais quand même sous morphine et tout. J'étais en soins intensifs. J'ai réalisé, mais j'étais vraiment pas dans mon état normal de par mes blessures physiques. Donc, ça m'a mis un peu off. C'est plutôt 2-3 jours après que j'ai vraiment réalisé que, en voyant le podium d'arrivée, par exemple, à la télé dans mon lit d'hôpital, je voyais ça a été diffusé en direct là-bas en Amérique latine, c'est hyper diffusé. Et je voyais en direct et je voyais tous mes copains, mes adversaires qui était à l'arrivée du Dakar et qui était content de terminer. Et je me disais, waouh, en fait, j'y étais quasiment. J'ai eu du mal. C'est sûr que ça a été dur parce que c'est un peu un rêve, c'est un rêve carrément d'enfant, un rêve complet. Je me lève pour ça le matin, je vis à fond pour ça. Ouais. Et de me retrouver si proche du but, parce que je peux vous dire que d'arriver à la 10e étape du Dakar et d'avoir 48 minutes d'avance le soir, c'est déjà tellement difficile à construire que j'étais vraiment proche du but. Maintenant, avec de la patience, avec du temps, je viens juste d'avoir 27 ans. C'était seulement mon 3e Dakar et j'ai vraiment montré que j'étais en mesure de gagner. Donc c'est déjà une super perf et c'est pour ça que je positive vraiment et que je me dis que la victoire viendra.
Bon, d'accord. Pour le 41e.
Édition,
quatre-vingt-unième, ouais.
Ça serait génial que ça se dé l'année prochaine, mais je prendrai le temps qu'il faut pour aller gagner et je suis vraiment confiant là-dessus.
Un petit mot sur la victoire de Milko, parce que Milko, on l'a eu il y a 5 minutes là, en direct au téléphone. Bon, c'est un peu ta victoire, pas ta victoire, mais bon, il roule sur une moto bleue. Donc, comme toi, qu'est-ce que tu penses de sa victoire, enfin, de sa course en général?
Bah, je suis content pour Milko. Ça fait des années qu'on se côtoie, qu'on roule. Je crois que c'est au Touquet, c'est mon adversaire et à la fois... un pote d'enfance, quand on était gamin, on a souvent passé des nuits chez l'un chez l'autre, et puis on passait beaucoup de temps ensemble sur la moto, on a beaucoup roulé ensemble. Après, on s'est un petit peu plus éloigné dans la suite de nos carrières, mais non, je suis content pour lui, c'est mérité. Il a fait vraiment une super course, j'ai vu la course du début à la fin, je trouve qu'il a vraiment bien roulé. Et puis, ça fait des années qu'il court après. C'est bien pour la famille Potisek, c'est bien pour Timothée qui est là-haut. Voilà, je trouve que, bah, sincèrement, je n'ai pas forcément pas gagné et pas participé à cet Enduropal. Et c'est un peu, bah, s'il y en a un que Milko fallait qu'il aille chercher, c'est celui-là, je suis content.
D'accord.
Non, mais je me bagarrerai certainement. Enfin, j'espère être en mesure dans les années qui arrivent de pouvoir encore faire l'Enduro. En rentrant du Dakar, parce que d'être là sur le bord de la piste aussi, ça m'a fait comprendre que j'aimais vraiment ça plus que tout. D'accord. Et que dès l'année prochaine, si je rentre du Dakar dans de bonnes conditions, c'est ce que j'avais dit l'an dernier et ça n'a pas été le cas, donc c'est pour ça que je leur dis, si je rentre du Dakar dans de bonnes conditions, je suis sûr que je me mettrai sur la ligne de départ du Touquet et très probablement je me bagarrerai avec Milko pour la victoire.
On t'a vu au parc fermé au moment du briefing. Bon, c'est vrai, on a bien vu que tu avais envie de monter sur une moto. Bien sûr, c'était pas possible. Hein, mais on voit dans ton regard et ton expression qu'effectivement, tu demandes que ça. Quoi. Est-ce que tu crois que c'est possible de faire le Dakar et revenir? Parce que c'est toujours un peu serré, hein, le Dakar et puis le Touquet. Là, est-ce que tu penses que c'est possible de gagner un Dakar et puis aussi faire gagner un l'Enduropal?
Bah, vous savez, la réponse, vous l'avez eue en 2016. Hein. J'ai fait le Dakar, c'était mon premier Dakar, j'étais dans des conditions hyper difficiles, je dormais dans une tente, je suis rentré vraiment épuisé, et puis 15 jours après j'ai gagné le Touquet.
Adrien, il y a Guy qui me fait signe, mais il dit ben oui, voilà, bah écoute, moi je ne suis pas spécialiste tout terrain.
Voilà,
Guy.
voilà, bah, effectivement. C'est moi qui aurais dû poser la question.
Voilà. Excuse-moi Adrien.
Non, c'est bien, mais voilà, c'est possible et c'est pour ça.
Oui, c'est possible. Alors, est-ce que c'est repossible alors? Voilà.
Ouais, c'est quelque chose que j'ai dans la tête. Maintenant, pour être sincère, je suis vraiment concentré sur le Dakar. Et je sais que gagner le Touquet, ça sera de plus en plus difficile parce que je perds pas mon niveau de vitesse, mais je m'entraîne beaucoup moins pour ça. Et maintenant, en rallye raid, je roule vraiment vite, c'est-à-dire qu'on a des vitesses très élevées. Et du coup, j'ai l'œil vraiment habitué à rouler très vite, à rouler régulièrement à plus de 100 km/h toute la journée même. Et du coup, ça m'apporte un peu de quelque chose de plus. Dans le sable que j'avais jamais découvert avant, et maintenant rouler à fond sur la piste du Touquet ou même sur la plage, c'est quelque chose vraiment facile pour moi par rapport à l'habitude que j'ai d'avoir une vitesse plus élevée en fait.
Adrien, dans le 10 et 11 mars, c'est le 39e salon de la moto de Pécancourt, je pense que tu seras présent là-bas.
Évidemment, Pécancourt c'est mon club, c'est ma famille.
Tu es licencié là-bas?
Je suis licencié là-bas depuis plus de 10 ans. C'est vraiment un club qui démène beaucoup pour les pilotes. Et puis au-delà d'être un club et d'être un partenaire, parce que c'est des gens dévoués, des bénévoles, et même si c'est mon métier, moi j'ai aussi à cœur de partager cette passion, et donc d'être à Pécancourt, c'est quelque chose d'important pour moi.
Donc tous les motards qui vont se rendre donc au 39e salon de la moto, les 10-11 mars à Pécancourt, pourront te voir, tu pourras dédicacer des photos, et puis des casquettes, enfin des t-shirts, tout ce qu'on voit.
Il y aura plein de choses et ouais, effectivement, je serai avec grand plaisir.
Voilà. Et pour terminer, Adrien, tu as participé à 3 Dakar et coïncidence, il y a 3 Miss France de la région. C'est quand même bizarre.
Ah, c'est bizarre ça, oui. C'est curieux ça.
Ouais, alors ouais, le problème c'est que j'ai pas performé autant que les Miss, elles ont performé cette année.
Ouais.
C'est dommage.
Enfin, ils risquent de tomber du podium. Il y a voilà. Que ça.
Ouais. Non, mais bon. C'est vrai que c'est sympa, on a des vrais champions dans le Pas-de-Calais, et dans, enfin ici dans les Hauts-de-France, et puis on a de très jolies filles aussi.
Ah, en effet.
Très bien, rien. Bon, je vois qu'il n'y a pas que la moto finalement quand même.
Non, il n'y a pas que la moto, même si c'est une grande partie de ma vie, il y a d'autres choses, c'est sûr.
Voilà, ok.
C'est chouette.
Adrien, on te remercie, puis on aura l'occasion de te voir à Pécrancourt et puis de repasser aussi à la radio.
Avec plaisir, les amis. À bientôt.
Allez, merci. Salut, Adrien.
À salut. Bientôt,
salut. Au revoir.
Terrain aujourd'hui avec Guy Pilarczyk, on va parler de course d'ice race, donc des disciplines qui ne se passent pas en France, hein, parce qu'il n'y en a pas.
Il n'y en a pas, non. Et justement, tu vois, ça c'est un moteur de moto de course sur glace. Et c'est quelle marque, toi, qui connais
tout? Alors, ah non, je connais pas tout, Guy. Non.
Tu connais tous les mots.
Tu es obligé de connaître pas mal de choses, mais tout, non. Jawa ou... Voilà. Jawa, tu vois, j'ai gagné Jawa, tu vois.
Ah, tu vois.
mais alors, Jawa, ça existe toujours? Ils construisent toujours des moteurs? Parce que des bécanes Jawa, on en voit plus.
Bah non, on en voit plus, ça, des Jawa.
Non, non, parce que c'était aussi CZ de Jawa.
Ouais,
c'était
CZ le Jawa, oui, ouais, d'accord.
CZ, ça existe toujours.
CZ ouais. existe toujours.
Toujours, et beaucoup de petites cylindrées dans les pays de l'Est, d'accord. CZ. Mmh. Et Jawa aussi. Mais là, ils construisent que les moteurs mono des 500 cm cubes.
Qui roule à l'essence ou au méthanol?
Au méthanol.
Au méthanol.
Ça sent au bois, quoi.
Ouais, ouais.
Donc il faut abattre des arbres et tout, tu vois.
C'est pas écologique du tout.
C'est pas du tout.
Hulot, où es-tu?
Oh non. Mais bientôt, peut-être qu'on les verra en électrique, alors Guy. Alors, si c'est pas écologique. Hein, avec une grosse batterie et un petit moteur. Mais oui, c'est les courses, ça fait combien? Ça fait 4 tours. Hein, la compétition. À chaque course.
À chaque manche. Il y a 4 tours. Hein, mais c'est très rapide. Parce que bon, t'as pas le temps de panoter un pilote.
C'est pratiquement on-off.
Ouais, voilà.
On tourne la poignée et puis.
On pose le genou par terre et puis on glisse. Alors, cette année, il y a cinq épreuves du championnat. Aujourd'hui, justement, il y a une épreuve par équipe. Ça se déroule... Il y a championnat individuel et par équipe. Hein. Alors, le individuel a eu lieu il y a une semaine au Kazakhstan. Donc, c'est pas à côté.
Oula.
Parce que ces courses se déroulent rarement en juillet ou août. Hein, c'est toujours...
Oui, ça, on a compris. Ça. <La stress. rire>
Mais en Russie, même au mois d'août, en Sibérie, les lacs sont gelés. Hein.
Ah oui.
Donc, la première épreuve a eu lieu au Kazakhstan, à Astana, dans un nouveau stade. Parce que là-bas, c'est le pays du pétrole. Donc, ils ont de l'argent, mais vraiment classe. Donc, comme tu disais, 4 tours, il y a 16 pilotes, mais il n'y a que 4 pilotes qui partent pour faire 4 tours dans le sens inverse d'une montre. Et chaque pilote dispute 10 manches, c'est-à-dire 5 manches le samedi, le soir, souvent en nocturne, et 5 le dimanche. Alors, Les Russes, mon Dieu, il y a Dimitri Koltakov, lui, il était engagé d'office parce qu'il avait le titre. Par contre, écoute, c'est la première fois qu'on voit un Suédois qui a monté sur un podium.
Ah oui, et pourquoi?
Eh bien, pourquoi? Parce que, bon, il a tourné la poignée, et puis il avait bien fait.
Mais pourquoi la première fois? Parce qu'il n'y a jamais eu de pilotes suédois qui sont montés sur le podium, qui ont gagné les courses ou les manches.
Mais ça remonte
à très loin,
à l'ère glaciaire, tu vois.
Ah, carrément, oui.
Alors, ce pilote, bien qu'il ait un nom finlandais, mais il est suédois, Martin Arakiltinen. Voilà.
Dis donc.
Alors, il a monté sur le podium le premier jour à côté du champion du monde. C'est une première. Alors, les Russes, ils sont à 5. Il y a 5 Russes. Enfin, si tu veux, les 5 Russes font un championnat russe dans le championnat du monde parce que ils se disputent. Alors, l'année dernière, il y avait un pilote qui s'appelait Igor Kononov. Il était vice-champion du monde, mais pour être dans le team, pour disputer les championnats du monde, il faut se classer en championnat russe. Et malheureusement, il a fini cinquième. Et cinquième, bon, ils ne prennent pas, quoi. Tu vois, c'est la dure loi du...
Il faut 4 pilotes, en fait.
4 plus... 4, mais Koltakov, il était... engagé d'office, parce qu'avec son titre, il n'avait pas été au qualif. Alors, les qualifs ont eu lieu en Finlande et en Suède. Et en Finlande, figure-toi qu'on a vu notre Claude Guéden.
Ah oui,
il a fait,
notre seul représentant français dans cette discipline, dans ce sport-là.
Mais sous la couleur belge.
Ah oui, parce qu'en France, on peut pas le...
Il n'y a pas de fédération.
La fédération ne...
Il y a quelques difficultés.
Il y a des difficultés.
Quelques difficultés. Mais bon, aller là-bas en Finlande faire les qualifs, bon, il faut le faire. Bon, notre Claude a marqué 0 points, mais bon, l'important, c'est d'y aller, quoi. Et puis, bon, il est revenu, malheureusement, avec 0 points. Alors, aujourd'hui, se disputent aussi en Russie, c'est par équipe, il n'y a que 6 pays qui disputent ce championnat. Bon, il y a les Russes, il y a les Suédois, il y a les Autrichiens, les Allemands et les Tchèques. Donc, cette année, figure-toi que, comme ce Suédois qui a monté sur la plus haute marche du podium, il y a aussi deux jeunes, c'est-à-dire, il y a Niklas Svensson, il roule, son père roule aussi. Donc, tu vois. Mais c'est des jeunes hein, qui en veulent, mais ils sont quand même, bizarrement, ce Martin, personne ne le connaissait, quoi, tu vois. Bon, il était peut-être bon en Suède, hein, mais là, vraiment, il a éclaté. Par contre, les vieux briscards, comme des gars qui s'appellent Günther Bauer, c'est des anciens, Stefan Svensson, il y a 58 ans, tu vois, et Franz Zorn, c'est un Autrichien, c'est le seul qui pouvait un peu taquiner, je dis bien taquiner les Russes, mais ils ont marqué 4 ou 5 points, alors que Koltakov a marqué 21 points, tu vois. Donc, 5 épreuves, ensuite ils repartent en Russie, il y a une épreuve à Berlin, à Insel, c'est en Allemagne, et n'oubliez pas qu'aux Pays-Bas, ils vont les accueillir les 4 et 5 avril 2018. Et si quelqu'un a l'occasion, allez-y pour voir un sport.
C'est la course d'Ice Race la plus près.
La plus près.
D'ici, hein, d'ici, hein. Du moins du nord de la France déjà.
À moins que tu voles en Russie, mais il faut partir.
Bah non, en Russie, voilà, c'est le problème.
Il faut partir de bonne heure.
Si tu veux, voilà.
Et prendre des bouteilles
d'eau. Donc c'est à Assen.
Voilà.
Partir non, aussi non, c'est pas à Assen.
Erevan. Et ça va revenir à Assen pas longtemps. Voilà. À Assen, la nouvelle patinoire va être juste à côté du circuit du Téti hollandais.
Ah, d'accord.
Voilà, le championnat continue sous la glace.
Le magazine de la moto tous les dimanches de 11h à 12h30, c'est sur Campus Lille, sur le 106,6. Christine, si on part d'ici une demi-heure, juste après l'émission, on part à Vise.
Oui, on peut.
Allez, ça fait une heure à peu près.
Une heure.
De Villeneuve d'Ascq, une heure par autoroute. C'est gratuit en plus. En Belgique, les autoroutes, elles ont été refaites. Il n'y a plus de nid de poule, il n'y a plus rien. Ça roule.
Oui. Sauf que c'est limité à 120. Hein.
Mais attention, c'est limité à 120. Vous avez une petite heure. Allez, une petite heure en moto, voilà. Et donc, vous pouvez assister. Vous pouvez aller, ça coûte 8€ si vous avez le flyer, parce qu'il y a 1€ gratuit hein, si vous présentez le flyer. Voilà, et vas-y, Christine.
Eh bien, en fait, qu'est-ce que vous allez voir là-bas? C'est le show stand de Moto Rétrovise qui est consacré aux motos classiques de BMW durant la période de 1969 à 1995. Donc, voilà, il fait beau, donc on peut rouler jusque là-bas. Attention, ça ferme à 17h.
Ah oui, alors il faut aller très vite hein, parce que là, justement, juste après l'émission, là, il faut partir. Hop. Voilà. Et puis un mot aussi sur le prochain.
Je voulais dire à Vise aussi, il y a des bonnes frites. Hein.
Oui, c'est vrai. On a mangé hier, c'est des bonnes frites.
Et aussi bien servi par des serveurs.
Des fricadelles aussi énormes. Voilà. 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 Bon, alors, on parle aussi du prochain salon de la moto de Pécancourt. C'est le 39e. Attention. Hein, donc, forcément, 2019, ce sera un. La grosse fiesta, normalement, le 40e salon, voilà. Hein. Mais on parle déjà de cette année, 2018, donc 10 et 11 mars, hein, Pécancourt, avec des concerts forcément, Yanis.
Ben oui, alors le samedi à 17h, on aura Soldat Louis, bien connu de tous les aficionados de rock. Et puis le dimanche à 12h, le groupe Ginger. Et à 18h, With You Tonight. Je ne connais pas With You Tonight, c'est un tribute.
Peut-être que Laurent connaît ou non, on ne connaît pas non plus. Il y a encore d'autres infos. Voilà.
Oui, au salon de Pécancourt, il y aura aussi du stun, hein, ça c'est comme d'habitude. Il y aura un spot de FMX, en fait plein de choses. Il y aura Dessine-moi une moto par le stand de Kikin Kouté Toupal. L'émission en direct aussi. Hein, et donc vous pouvez contacter hein, page 19 du calendrier, vous trouverez justement les informations pour éventuellement prendre vos billets.
Et les animations, Expo Moto, Custom Back Show, Yamaha du Dakar, Expo Moto Ancienne, Expo Moto Grand Prix et du tracteur. Pauline. C'est du truc qui tire, ça. Ça consomme aussi, ça. Faut pas inviter Hulot.
Nicolas.
Faut pas inviter Nicolas.
Et les moteurs qui explosent. Quoi. Voilà. Et aussi, ne pas oublier le stand Kikaku.
Voilà, on a parlé. Et donc, on rappelle, 10 et 11 mars, forcément, c'est un peu en avance cette année, le salon de Pécancourt. Normalement, c'est toujours plutôt le vers mi-mars, enfin, troisième week-end de mars. Donc on retient la date, on va passer un morceau de musique et après on va se retrouver avec notre Gilou.
Avec Gilou,
avec
oui.
Avec la fameuse rubrique deux mots quatre, en quatre temps.
Oui, pas en 40 minutes.
Pas en 40 minutes, ça, voilà. Yanis, tu m'épates parce que je savais pas que tu jouais de la batterie, tu vois. Voilà.
J'adore. Voilà. Voilà. Et voilà. J'adore.
On revient sur le programme de du salon de Pécancourt, Christine, parce que il fallait ajouter quelque chose.
Oui, oui. En fait, il y a la bourse est maintenue. Enfin, voilà, cette année, elle revient. Donc, il faut voilà. C'était voilà, vraiment une info importante.
Elle n'est pas, pas indiquée sur le programme, mais voilà. En fait, cette bourse aura bien lieu. Voilà. On a au téléphone.
Au téléphone.
Notre ami Gilou de mesmotocross.fr.
Pour sa rubrique deux mots en quatre temps. Alors figure-toi, la Miche, que hier soir je l'ai appelé pour parler de l'émission. On a discuté pendant 1h19. Alors,
c'est pas
j'ai
possible.
Essayé de. Bonjour Gilou.
Bonjour à tous.
Attends, une petite parenthèse, c'est qu'on peut. Tu sais, on a mis ta photo sur le calendrier parce qu'on édite un calendrier à 35 000 exemplaires.
Ouais.
Et donc, t'es page 19. Hein, on te voit avec ton bonnet bleu, ouais. Blanc, rouge, avec des plumes au-dessus, la tête, je sais pas.
Oui,
c'est...
Bah, en fait, voilà. J'avais dit que c'était Pascal Dicker qui m'avait pris en photo, mais celle-ci, non, en fait, c'est chez moi, c'est dans mon bureau, c'est quand je suis en train de travailler. Sur mes motocross, voilà.
Avec des écrans devant
fou,
toi, ouais. voilà, deux
ouais,
écrans.
Je suis un
voilà.
petit peu fou, oui.
Avant, Gilou, avant de parler du Grand Prix des USA,
ouais.
Tu as regardé le championnat US.
Ouais, ouais.
Hein, alors, dis-nous un peu les résultats de.
Alors, c'est une course, c'était San Diego, hein, c'était la
San
sixième
Diego,
épreuve.
Ouais.
Ouais, c'était la sixième épreuve du championnat, hein, qui, bon, je rappelle, il y en avait 17, donc on a dépassé le tiers du championnat. Bon, je vous parlais de la finale de 450, ça a été assez intense. Une grosse chute au départ, premier virage, grosse chute, et ça met par terre Roxen, Tomac et puis Cooper Webb. Tomac abandonne, bon, voilà, donc Tomac, pas de résultat, et puis le titre qui est probablement maintenant définitivement perdu, donc il ne sera pas champion de Supercross cette année, une nouvelle fois, alors que c'était le grand favori. Et puis ensuite, grosse bagarre entre Roxen et puis Cooper Webb, qui remontent ensemble, et puis sur un virage, Webb qui était derrière Roxen, donc il fait un petit bloc pass que Roxen n'apprécie pas trop, et il réagit immédiatement au virage suivant, trop rapidement à mon avis, c'est précipité, Roxen fait une faute, il chute en faisant tomber Webb, et malheureusement Roxen se blesse à nouveau.
Ah,
ça, c'est la mauvaise information, c'est le truc qui plombe un petit peu le championnat à nouveau cette année, c'est que Roxen se blesse à l'autre bras. Il était blessé, alors je sais plus, du coup je crois que c'était le bras gauche, donc ouais, enfin, ouais. Il se blesse à nouveau l'autre bras, il est parti avec l'ambulance, il a abandonné, et bon, ce qui est à craindre, maintenant il faut attendre un petit peu la suite pour savoir la blessure, mais il est parti en se tenant le bras, il avait l'air de souffrir, donc malheureusement je crains que pour Roxen ça soit un petit peu le championnat soit terminé pour lui aussi, et puis bon, on va voir, c'est peut-être pas trop grave, on verra bien. Mais en tout cas, le championnat se prend une sacrée claque pour
Roxen. Parce que Roxen, il était revenu quand même après sa blessure,
il était revenu au top. Et puis, mais je pense, tu vois, que cette année, ce qu'il a fait, c'est qu'il a. Il voulait tellement marquer les esprits en disant je suis revenu et je suis le meilleur. Et je pense qu'il aurait dû être mieux coaché, à mon avis, parce que pour lui dire de prendre un petit peu de temps, pas viser systématiquement le titre cette année, mais voilà, il était quand même deuxième du championnat. Hein.
Ouais, c'est ça.
Mais c'était, il revenait, et puis il voulait, et puis c'est des gars qui sont quand même assez fiers. Hein, donc, voilà. Alors malheureusement, Roxen qui se blesse, Cooper Webb, lui, a abandonné peu de temps après, sa moto a souffert de l'attaque de Roxen. Et puis voilà. Alors, ce qui fait que, au final, Eh bien, on a quand même une belle course de Marvin, Marvin Musquin, ouais, et qui termine second de l'épreuve, mais en roulant très bien en finale. Il termine second derrière Jason Anderson, qui a gagné une nouvelle fois à San Diego. Donc c'est Anderson, là, cette fois-ci, est vraiment parti pour... c'est du sérieux. C'est-à-dire d'accord. qu'il tient la distance et donc il est en tête du championnat. Il a 141 points, il est devant Barcia qui a 113 points, qui était moins bien aujourd'hui, mais Barcia. Hein, c'était curieux parce qu'il était bien parti et il a plutôt rétrogradé. Et c'est Marvin qui a très bien roulé, lui. Hein, par contre, c'est marrant parce qu'en demi-finale, enfin en qualif, pardon, Marvin avait beaucoup de difficultés dans les whoops. Il était parti en tête et en qualif, il est rétrogradé à chaque fois dans les whoops. Et il a fini les qualifs en sixième position. C'est ça qui était curieux. D'accord. Et en finale, ils étaient complètement retrouvés, par contre. Et ça s'annonce une suite de championnats intéressante. Hein.
Alors, ouais. pour les néophytes hein, du motocross, hein, les whoops, c'est ces fameuses petites buttes, mais très rapprochées. Hein,
Oui, tout à fait. En fait, il y a plusieurs possibilités. C'est des bosses rapprochées. Soit qu'on les dribble, c'est-à-dire que c'est toute la technique, c'est on passe que sur les crêtes des bosses. Tu vois, c'est tuc, 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 sur toutes les hauteurs. Soit que certains les prennent les doubles, les triples, ils font des sauts pour essayer d'en sauter deux ou trois d'un coup, comme ça. Il y a plusieurs façons suivant la taille des whoops. Mais enfin, c'est une technique et ça pardonne pas la faute. Hein. S'il y a une faute, en général, c'est la chute immédiate.
Hein. La chute.
Ah oui, c'est une histoire de rythme et puis de confiance et puis de vitesse.
C'était à l'avant-dernière épreuve. En 250, la chute d'un Américain, là, ben je ne sais plus comment il s'appelle, là, c'est en vidéo sur YouTube.
Oui. En 250, là, tu me prends un petit peu de course de savoir qui était sur cette chute-là. Mais de toute façon, en 250, je peux vous dire les résultats. En 250, c'est Justine Hill qui a gagné sur une Suzuki. Alors, c'est un retour de Justine Hill qui était complètement à la ramasse depuis quasiment le début de la saison et qui là est revenu déjà la semaine dernière. Il était bon et là il a réussi, c'est le champion en titre, hein,
Justine Hill,
ouais. Et il a gagné la course cette nuit là avec devant Chancharulo et puis le jeune espoir américain Sexton qui vraiment lui c'est encore une vedette
d'accord.
C'est encore un nouvel
donc on va parler tu voulais parler du Grand Prix US.
Ouais.
Alors on te laisse encore 2-3 minutes supplémentaires.
Tu vas y arriver, Gilou, parce que on connaît maintenant.
Gilou voudrait venir au studio pour
bien sûr
une heure et demie de, de motocross.
Une heure et demie de motocross, ouais, ouais. Gilou. Voilà, écoute,
on va faire une spéciale.
Hein. On peut se faire carrément une après-midi motocross, éventuellement. On commence à 11h et puis on termine à 17-18h.
C'est ça.
On va voir avec les animateurs des émissions suivantes.
Il n'y a pas de souci. Ouais, j'avais envie d'aborder le Grand Prix des États-Unis parce que pour moi, cette année, il n'y a pas de Grand Prix des États-Unis hein, dans le championnat du monde. Et c'est ce qui m'agace un petit peu, c'est que j'avais parlé dans la première rubrique des deux mondes hein, de motocross. C'était d'un côté le monde américain avec leur supercross et championnat typique pour les États-Unis. Et de l'autre côté, l'autre monde, c'était le championnat du monde avec les Grands Prix. Et les deux occasions qu'ils ont de se confronter sportivement, c'est soit le motocross des nations, soit le Grand Prix des États-Unis. Et le motocross des nations, c'est quand même une course particulière. Ça, on y reviendra sûrement dans une prochaine rubrique. Mais le Grand Prix des États-Unis, c'est vraiment là où on a les meilleurs qui s'affrontent. Et le problème, c'est qu'au fil des années, avec les évolutions des championnats américains, ils ne veulent plus, les pilotes américains, participer à ce Grand Prix qui pour eux, n'apporte rien parce qu'ils ont fini leur championnat. Il y a un Grand Prix des États-Unis qui arrive et ils n'y vont pas, les meilleurs n'y vont pas parce qu'ils n'ont pas d'intérêt à y aller. Financièrement, ça ne leur apporte rien et puis sportivement, ça ne leur apporte rien, si ce n'est éventuellement une gloire s'ils remportent la course, mais ils n'y vont pas. Ce qui fait que le public américain ne se déplace pas non plus et donc pour le club, c'est catastrophique. En général, c'était Glenn Helen ces dernières années qui organisait le Grand Prix. S'il n'y a pas de public, et ben forcément il y a un problème financier et puis voilà, et ce qui fait que le Grand Prix va mal. Alors il y a des solutions, à mon avis il y a une solution, et c'est la seule qui permettrait vraiment de booster le Grand Prix et puis que ça soit formidable, c'est qu'il y ait une épreuve du championnat de motocross américain, soit unifiée avec le Grand Prix des États-Unis. C'est-à-dire, on fait sur une épreuve une course qui compte pour les deux championnats, championnat du monde et championnat américain. Ça serait tout à fait faisable si les dirigeants souhaitent le faire, parce que ça, c'est déjà arrivé, hein, qu'il y ait des courses qui comptent pour deux championnats, qu'il y ait des courses qui comptent pas, qu'ils soient hors championnat, des choses comme ça, c'est déjà arrivé dans le passé. Donc on peut le faire, mais c'est une volonté des dirigeants. Hein. Et puis alors, mais ça serait formidable. Parce que déjà, le premier avantage, c'est qu'il n'y aurait pas de course supplémentaire pour tous les pilotes qui font les championnats américains. Il n'y aurait pas de course en plus. Il y aura un intérêt sportif parce qu'ils marqueraient chacun des points dans leur championnat. C'est-à-dire celui qui fait premier, deuxième et qui dark, ça fait donc 47 points par exemple. Et ben, si Thomas gagnait, marquait 47 points, il marquerait à la fois 47 points dans son championnat américain. Donc pour lui, c'est parfait. Hein. Et puis en plus, il marquerait 47 points dans le championnat du monde. Je dirais que c'est plus anecdotique, mais ça serait quand même, ça servirait. Et Keroli qui ferait le championnat du monde, ben, il marquerait lui aussi. S'il faisait deuxième et premier par exemple, et bien il marquerait 47 points aussi, et pour le championnat américain anecdotique, mais aussi pour le championnat du monde. Et ce qui fait que les gars courraient pour eux, vraiment, et on sélectionnerait, par exemple, au niveau des qualifications, 20 places de réservées pour les pilotes de Grand Prix, 20 places de réservées pour les pilotes du championnat américain, et donc ça nous fait 40 pilotes derrière la grille, et là on a les top, on a les 40 pilotes les meilleurs du monde, et il n'y a pas à tourner. Ils courent pour eux, tu vois, et vraiment ils courent pour eux, donc ça serait absolument génial. À partir de là, il faut voir un petit peu l'impact que c'est. Ça serait même un niveau supérieur que le motocross des nations, hein. Parce qu'au motocross des nations, éventuellement, on a les 3 ou 4 meilleurs pilotes de chaque pays. Voilà, là on aurait des 20. Donc ça serait l'idée à travailler. Et il faut que David Longo et puis aux États-Unis c'est David Coombs qui est le promoteur, et puis avec la FIM qu'ils travaillent ensemble. Apparemment ils ont envie de le faire, ils se sont un petit peu affichés en disant qu'ils voulaient travailler sur le Grand Prix des États-Unis. Mais ça serait vraiment formidable si on pouvait avoir ça un jour. Et moi, je leur écris, hein, je suis en contact avec
eux. Ouais, tu l'as dit, ouais.
Je leur écris, j'essaye de les encourager au maximum. Bon, je suis à mon niveau, hein, c'est pas parce que dis que ça va se faire, parce qu'ils défendent chacun leurs intérêts quand même.
Hein, ouais, c'est sûr, ouais.
Bon. Enfin voilà, donc ce qu'il faudrait, c'est qu'un Grand Prix des États-Unis soit formidable. Et puis en plus, tu vois, moi, ça serait un bonus, c'est que ce Grand Prix devrait se dérouler le plus près possible de la fête nationale, c'est-à-dire le 4 juillet.
Ah oui,
comme ça serait ce week-end-là, et en plus, il y aurait un côté Grand Prix des États-Unis, c'est la fête nationale, et les Américains aiment bien ce genre de choses.
Ce qu'on va faire, Gilou, nous, on va aller boire un coup, là, et on va te laisser parler. Dernière chose, c'est qu'on peut retrouver toutes ces infos sur memotocross.fr. C'est le site que vous avez voté à trois, là.
Il y a la Capelle qui démarre la semaine prochaine.
C'est compliqué, hein, les histoires de points et tout ça. Et donc, il faut revenir, hein, parce que là, tu parles, mais on n'a pas le temps de bien réfléchir, quoi. Donc, je suppose que tout ça, c'est expliqué sur le site, hein, quand même. Voilà, hein.
Ouais. Hein, voilà. Et puis, de toute façon, maintenant, je mets sur le forum, je refais un petit résumé de
ce que tu as dit. Ouais. Ça, c'est pas mal.
C'est pas mal, parce que les néophytes, tu sais qu'ils ne sont pas trop motocross ou championnat américain, ligue, tout ça.
Et la semaine prochaine, on a un Français. C'est un nouveau championnat aux États-Unis. C'est la côte Est qui commence. Et tu as Dylan Pierrandis qui va rentrer en
course. Ah, d'accord, ouais. Ok.
Bon, tu montreras pas sur la première marche du podium. Tu n'as pas réussi à expliquer tout ça en 3 minutes. Je te le dis, t'as perdu. Voilà, donc le mois prochain, hein.
Ouais. on en remettra, t'inquiète pas. Il y a du sujet, il y a de quoi dire.
Oh, il y a quoi, dire. Ouais.
Bon, on te remercie. Vilou. Puis bon dimanche, et puis on se retrouve le mois prochain.
Le mois prochain.
Okay, ouais. Ça marche. Bon dimanche à vous. Bon dimanche à tout le monde.
Merci.
Ciao, les gars. Salut.
Life is what you make it, so just try to breathe. Just turn around and take it, cause there's no relief. And when the
Bon, Guy, on part au musée Sammy Miller, en Angleterre.
Et qui c'est, ça, ce Sammy Miller?
Un pilote de motocross.
De trial.
J'ai fait l'erreur de ma vie, encore une fois. Eh ben, aujourd'hui, c'est pas bien. Voilà.
Voilà.
Alors, et nous avons qui au téléphone?
Alain Devly, qui est président du Caïman. Bonjour, Alain.
Oui, bonjour. Et bonjour à tous. Bonjour, Guy.
Bonjour, Alain.
Bonjour, la miche. Comment allez-vous?
Ça, nous, ça va bien. Et toi?
Très bien.
Alors, tu veux remplir un bus, là, le 14 avril, là, samedi?
Ouais, c'est ça. Le samedi 14 avril, l'association Caïman organise un déplacement en Angleterre au musée Saint-Hilaire. Donc, à l'heure actuelle, on est à peu près 35 personnes et il reste 15 places. Donc, si les gens sont intéressés, il faudrait qu'ils me contactent le plus vite possible. Hein, ou qui regarde sur le calendrier Kikaku, bien sûr,
ouais, voilà.
Ou il me contacte au 06 20 50 29 37. Il laisse un message ou un SMS et que je puisse leur répondre.
Parce que sur notre forum, l'adresse est notée. Hein,
ouais, d'accord. Hein. Ouais. Oui, bien sûr.
Pourquoi vous avez choisi le musée de Sammy Miller?
Bah, disons qu'on y a été à peu près une douzaine d'années. Et à l'heure actuelle, il y a à peu près 50 à 60 motos supplémentaires que Samy a collectionnées. Donc c'est aussi bien des motos de course, des motos de trial que des motos routières, mais exceptionnelles. Hein. C'est pas de la petite bière qu'ils sont. Hein. Si les gens veulent vraiment visiter le site, il faut qu'ils tapent Samy Miller, .co. Ouais, quoi. De toute façon, tous ces renseignements sont sur le site du Caïman ou sur le calendrier Kikaku.
Donc c'est un départ à quelle heure? Parce que je pense que le musée il est placé, il est aux alentours de Londres, c'est ça, non?
Non, il est au sud-ouest du côté de Southampton.
Ah oui, donc, oui, exactement, oui. C'était le port où le Titanic est parti, Southampton.
Voilà, c'est ça. Voilà. Et on prend les gens en charge sur Calais, mais c'est vraiment de bonne heure. Hein. C'est-à-dire, ça sera le départ à 5h du matin.
5h du matin, oui, voilà, il faut être présent.
Ouais,
voilà.
Ouais,
donc il y a un parking prévu pour les...
Voilà, c'est ça, il y a un parking prévu. Bon, c'est un parking du supermarché, mais bon, ça va, quoi. Hein.
D'accord.
Hein. Et donc le retour est aussi pareil, assez tard, quand même.
Le retour, c'est aussi tard et c'est le tunnel. Hein. On prend le gros tunnel. Donc,
voilà. Et pour revenir sur les machines qui sont exposées, c'est des machines qui ont gagné des courses.
La plupart, c'est des machines avec palmarès. Il y a les machines de Samy.
Dans toutes les disciplines, le tout-terrain et la vitesse sur piste.
Oui, bien sûr. Samy Miller, c'était un champion du monde de trial. C'était un champion aussi de... Je sais pas si c'était champion du monde en vitesse, mais il était pilote vitesse. Hein.
Il a été pilote vitesse.
Ah oui, tout à fait.
Et sur quelle marque?
Bah, elle a couru beaucoup sur Mondial, hein, et sur des Norton, tout ça.
Il faut revenir un petit peu, donc c'était un peu années 50-60.
Ouais, c'est ça.
Génération de ces pilotes-là. Ouais.
Voilà, c'est ça. À l'heure actuelle, il a 80 balais, donc, mais il n'est toujours pas si spécialisé, parce qu'à chaque coup qu'on va en Angleterre pour des bourses d'échange, on le croise. Hein, donc...
Il est toujours à l'affût de rechercher des motos.
C'est
quoi.
Ça. Ouais.
Un peu comme toi, Alain. Un peu comme toi, hein. Faut le reconnaître.
Un petit peu, mais avec moins de budget.
T'as moins de budget.
Alors, en parlant de budget, c'est combien la traversée, tout compris bateau,
Package, bus, musée et voilà.
Tout compris, la participation est de 70 euros pour les personnes lambda et 65 euros pour les membres. C'est-à-dire qu'il y a des membres qui nous écoutent, qui voudraient venir. Et voilà quoi. Hein. Donc ça comprend le transport en car, la traversée par le tunnel et l'entrée au musée et le petit déj à bord du bus.
Le traditionnel petit déj, le petit pain au chocolat et avec le café ou le chocolat chaud.
Soir, une Guinness.
Et le soir, c'est prévu aussi dans le package, parce qu'avant, moi, j'ai déjà participé au bus, hein, mais pour aller à Kempton Park.
Cette année, Kempton Park, on le fait pas au mois de mai, on le fera en décembre.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de dates qui se croisent,
on a regardé sur
le calendrier, là, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Hein. C'est incroyable, il faut choisir maintenant, on ne sait plus où aller. Hein.
Et en décembre, c'est... principalement pour le tout-terrain, hein, c'est ça,
voilà,
hein, en décembre.
C'est le classique off-road.
Ouais.
À Kempton Park.
J'aurai peut-être l'occasion d'y aller. Ouais.
Oui, ouais. Voilà, et bon, là, on va organiser un bus, donc on fera sûrement un appel à l'émission, hein, donc pour essayer de diffuser la formation, hein. Et voilà, quoi.
Donc après le bus, le programme un peu du Caïman cette année, là, en 2018, bon, qu'est-ce que vous avez prévu?
Après, on participe à des expos, hein, comme à Wascal, avec nos amis, les collègues des Amis de la Moto.
Alors, les 10 et 11 mars.
Voilà, c'est ça. Non, c'est le 11 mars. Hein,
c'est le 11 mars, hein. C'est le 11 mars, c'est le dimanche. Ouais,
la préparation, voilà. C'est mais alors, le samedi.
C'est en même temps que le salon de Pécancourt.
Voilà, c'est ça, ouais. C'est toujours en chevaux.
C'est quand même dommage, parce que bon, il y a des week-ends où il n'y a rien, il y a des week-ends, il y a plein de choses.
Bah oui. Mais en principe, il y a beaucoup de week-ends dans l'année qui sont pris quand même. Hein, donc, on est vraiment surbooké.
Donc, on vous retrouve le 11 mars donc à Wascal.
Après,
ce salon là des Amis de la Moto, et après
ouais après on est au mois de d'avril notre bus après on sera présent à Stafford le 20 21 22 mai.
Alors Stafford c'est pareil, c'est une bourse d'échange, hein, grosse bourse.
20 et 21, ouais, c'est ça, avril plutôt, je me trompe.
Voilà. Une grosse bourse
après.
Voilà. Ouais. Et une grosse bourse d'échange qui est au-dessus de Londres, hein, Stafford.
Ah non, c'est au-dessus de Birmingham.
C'est au sud. Dis-moi, j'ai pas de chance aujourd'hui.
C'est très loin. Voilà.
Ouais. Oui, c'est très loin. Il faut y aller sur deux jours, je crois. Hein.
Lille, c'est au nord.
Oui, Lille au nord.
Minimum deux jours. Ouais, minimum deux jours.
Bah, c'est énorme comme.
Voilà. Il y a tous les clubs anglais qui font des expositions et un énorme échange. Il y a 20 à 30 000 visiteurs ce week-end, donc c'est très important.
Voilà, bah écoute, là on va.
On te remercie
parce que là notre technicien nous estime que c'est le temps à partie, il s'est compté là maintenant, ça y est, il reste quelques minutes.
Et puis on aura l'occasion de remettre ça.
Oui, bien sûr, après on a une balade au 15 août.
Le 15 août. C'est sur le calendrier, voilà.
Ouais, c'est sur le calendrier. Voilà. En principe, tout ce qu'on organise, c'est sur le calendrier du célèbre Kikaku.
Voilà, célèbre. Allez, Alain, merci.
Allez, salut.
Bon dimanche. Allez,
salut.
Ouais, salut, bonsoir. Bonjour.
Bonne nuit.
Et en anglais, comment on dit?
En anglais, tu dis comment?
Salut.
Ah, salut aussi, bon, d'accord. Bon, voilà, l'émission se termine. Bon Guy, une petite info vite fait, non il reste 2 minutes de générique.
Non,
plus rien. Bah, voilà. Bon, non, il fait signe. Merci Yannick. Alors on se prépare nous. Hein,
on se prépare pour les élèves.
L'événement
hein,
chaud.
Et si on a
la doudoune,
le gros duvet.
Le duvet.
Les après-ski.
Moins 15. voilà.
Et si on a qui viennent, n'hésitez pas à passer à notre campement.
On espère vous voir. Donc on espère qu'on aura de la neige. Hein, parce que
chaud.
S'il pleut, c'est pas une hivernale ça. Voilà. Merci Christine pour les motards mayennais.
Voilà, écoutez, bonne journée.
Parce qu'on sait qu'ils nous écoutent aussi.
On sait qu'ils nous écoutent.
C'est incroyable, voilà. Eh bien, on vous souhaite un bon dimanche et on vous retrouve forcément dimanche. Alors, dimanche prochain, on ne sait pas, on va enregistrer l'émission parce que ça va être compliqué. Mais on va essayer de la faire quand même. Hein. Peut-être un direct ou alors on va enregistrer cette émission cette semaine, on verra bien. Voilà, passez un bon dimanche et puis à la semaine prochaine.
Au revoir.